Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence Bourse Live, une conférence pendant laquelle on va parler de diversification. Oui, parce que si c'est une nécessité pour l'investisseur individuel en temps normal, c'est peut-être encore plus crucial en ce moment avec un contexte exceptionnel, plus vu depuis des dizaines d'années et qui peut rapidement faire, perdre la boussole en termes de stratégie d'investissement. Heureusement, pour nous aider à retrouver le Nord, j'ai avec moi sur le plateau les experts d'Edmond Rothschild Asset Management qui vont décrypter ce qui se passe et vous aider à prendre les bonnes décisions. Je suis donc en compagnie aujourd'hui de Maggie McDonald, spécialiste produit chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Maggie.
Bonjour.
Et Ludovic Dufour, responsable de l'équipe spécialiste produit. Bonjour Ludovic.
Bonjour Laurent.
Ludovic, je l'ai dit brièvement dans mon lancement, on se retrouve dans une situation que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, plus vue depuis les années 70-80, une inflation qui flambe, des taux qui remontent, une croissance qui flageole, on est en train de se demander, et sur les marchés, toutes les classes d'actifs qui baissent en même temps. Compliqué cette équation, comment on la résout? Est-ce qu'on peut déjà expliquer le mouvement subi et très rapide auquel on a assisté sur les taux?
Oui, c'est bien de revenir sur la hausse des taux, parce que c'est vraiment l'élément qui explique le comportement des marchés actuellement. Cette hausse des taux, elle prend racine dans l'évolution de la politique des banquiers centraux, notamment la Fed. Il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête sur l'évolution de la politique monétaire. C'est tout d'abord sortir de la politique non conventionnelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, les banquiers centraux achetaient des actifs. Ils souhaitent sortir de cette politique.
Ce que donc, on dirait qu'il est devenu habituel, Ludovic.
Exactement, on est
c'est
d'accord.
C'est bien tout
on
le
est
drame,
bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Ils achetaient des actifs pour accompagner les investisseurs sur les marchés des taux et surtout faire baisser le niveau des taux. Ils souhaitent mettre fin à ces politiques non conventionnelles parce que la crise du Covid est derrière nous. Il n'y a plus besoin de ce mécanisme. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments. Ensuite, l'autre arme des banquiers centraux, c'est les taux. Les taux directeurs sont très, très bas, étaient très, très bas pendant longtemps. Ils souhaitaient les augmenter. Et quand on augmente les taux, dans le mandat des banquiers centraux, il y a lutter contre l'inflation. Et donc, du coup, on a un petit peu tout qui s'est précipité à un moment. Et cette hausse de l'inflation qui devait être
maîtrisée,
a un peu dérapé. Et elle a dérapé plus longtemps que prévu. Le terme durable sur l'inflation est venu sur le devant de la scène. Et donc, les banquiers centraux ont accéléré la hausse des taux. Ce qui fait que, finalement, cette hausse de taux, c'est un choc. Elle s'est vraiment matérialisée avec un choc d'une manière très rapide, avec beaucoup d'amplitude. Si on prend un petit exemple, juste depuis le début de l'année, c'est à peu près, sur les taux longs, 200 BP, 2% de hausse de taux.
200 points de base. Ouais,
200 points de base, ouais. Exactement. C'est-à-dire que si vous êtes un investisseur sur de la dette allemande, du 10 ans allemand, en perf, ça se traduit par moins 15%. Si vous êtes un investisseur qui était plus court sur du 2 ans, c'est moins 4,5%. Plus long sur du 30 ans, c'est moins 30%. Donc voilà, il y a un choc parce que la hausse des taux, elle fait baisser les prix. Et les prix ont très, très violemment baissé. Et ensuite, sur cette politique de normalisation et de hausse des taux, eh bien, ils ont dû accélérer dans la dynamique.
On a ce 75 points de base de la Fed qui est passé et on voit le discours de la BCE qui est plus offensif. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Ludovic, mais comment tout ça se traduit concrètement sur le marché obligataire? On voit, le choc est assez violent.
Le premier élément, on le voit, c'est sur les prix. Les prix ont fortement baissé. Après, si on veut être un peu plus global exhaustif, c'est la volatilité qu'on a. Pourquoi? Parce que les banquiers centraux nous expliquent que les taux vont monter. Tout le monde l'avait anticipé. C'était dans les programmes. On savait que les taux allaient monter.
Ça allait remonter, mais peut-être pas aussi vite, aussi fort.
La question, c'est aussi vite, exactement. Vous l'avez dit, 75 BP, préannoncé quasiment 75 BP sur la prochaine réunion également. Sur la BCE, qui en début d'année n'annonçait pas de hausse de taux, le marché en attendait un petit peu, 50 BP le marché attendait. Donc 0,5% de hausse sur 2022. La BCE est venue début juin en expliquant que finalement, 25 centimes en juillet, 50 centimes à la rentrée et encore 25. Donc elle a mis le marché sur à peu près 125 centimes BP de hausse de taux.
1,25% si on essaie après de retraduire un peu tout ça.
Donc ça fait 5 hausses, dont une double à 50 centimes. Mais par rapport à ça, le marché anticipe. Et le marché, en fait, si on regarde ce qu'attend le marché cette année, c'est 1,8% de hausse de taux.
Donc c'est encore au-dessus.
C'est
de
encore
ce
au-dessus. Et c'est ça qui génère beaucoup d'inflation, de volatilité sur le marché des taux. C'est où est-ce qu'ils vont s'arrêter, etc. Et les autres inquiétudes que ça suscite, c'est que plus on augmente les taux, plus on est restrictif. Et c'est quoi la transmission vers la croissance?
Oui, parce que pourquoi il y a cette incertitude du marché, Ludovic ? C'est parce qu'on a l'impression que l'inflation n'est toujours pas véritablement sous contrôle, c'est ça ?
La question, c'est est-ce que cette politique monétaire peut permettre de remettre cette inflation sous contrôle ? Et on voit que sur les chiffres, on n'arrête pas de faire de nouveaux plus hauts et puis tout le temps d'avoir de l'exceptionnel. L'été dernier, l'exceptionnel, c'était les voitures d'occasion sur le marché américain qui explosaient. L'inflation dérape encore. On a eu l'énergie avec en plus accentué avec le choc géopolitique, la crise en Ukraine. Le mois dernier, c'était le prix des billets d'avion. Après, cette économie qui se réouvre suite au Covid, on consomme des biens et puis après, on consomme des services. Ouais. Et donc, c'est plein d'éléments de petits chocs, mais à chaque fois, c'est des chocs d'offres qui font que cette inflation continue d'augmenter. Donc, du coup, les banquiers centraux durcissent le ton. La question, c'est est-ce qu'à un moment, à force de durcir, on tombe sur l'accident de politique monétaire et on nous amène à rentrer en récession ?
Le constat est posé. Il est un petit peu inquiétant quand même, il faut le reconnaître. Comment on adapte tout ça au niveau de son allocation ? Les gens qui nous regardent se disent comment on peut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il va falloir aller rechercher ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire en fait ?
Alors il y a le premier élément, parce qu'on peut faire regarder dans le rétro, regarder ce qu'il aurait fallu
faire. On l'a fait, voilà.
Donc il ne fallait pas avoir taux, il fallait être très peu sensible, etc. Bon, ça c'est un peu derrière nous. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, il y a un élément qui est concomitant, c'est que les taux sont plus hauts. Donc ça veut dire qu'ils rémunèrent plus. Étant donné qu'on a également des inquiétudes sur le ralentissement économique, les spreads de crédit sont également plus hauts. Donc au final, aujourd'hui, si on achète des taux, on a un niveau de rémunération qui est bien plus intéressant. Si on met des chiffres sur ces éléments, on le disait, on est sur les taux à peu près à 1,70 en zone euro, on est revenu à 2,75 sur le 10 ans américain. Mais à côté de ça, on a les spreads de crédit. On peut aujourd'hui.
On explique peut-être ce que c'est un spread de crédit pour les gens qui seraient un petit peu largués.
Ça va être le taux supplémentaire qu'on demande à cet émetteur pour s'endetter.
D'accord.
C'est-à-dire que si on le fait sur un exemple simple, on va dire que le taux de base en Europe, c'est l'Allemagne, un taux à 1,70. L'Italie, quand elle s'endette plus cher.
Donc c'est l'écart entre le taux de référence qui va être le taux allemand et le taux d'autres pays.
Aujourd'hui, elle s'endette avec 190 BP, 1,9% de plus. Ouais. Et il y a eu un petit stress la semaine dernière parce que c'est monté jusqu'à 2,4%. On pourra y revenir. Donc du coup, en revanche, ça nous donne des niveaux de rémunération. Et aujourd'hui, il y a un élément qui commence à être intéressant. Il ne faut pas se précipiter, mais il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'on peut construire des portefeuilles de qualité, même courts en duration, qui affichent des niveaux de rémunération intéressants. On peut faire un portefeuille, je regardais, investment grade, donc les sociétés de meilleure qualité, plus à yield. De la dette bien notée, de la dette un peu moins bien notée sur du yield, court en duration, donc échéance moyenne à 2 ans, et ça va vous rapporter 4%. Donc quand vous avez 4% qui vont tomber tous les ans de rémunération, vous pouvez commencer à regarder le fait de revenir sur le marché, et même si ça continue de se grader, de se dégrader vous avez ce 4% qui peut compenser en partie. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous inciter à aller sur de l'investment grade très longue maturité, parce qu'il y a encore de la place quand même pour de la hausse de taux, mais on en a déjà fait pas mal. En revanche, sur des maturités courtes, c'est là où il y a des intérêts. Et si vous voulez prendre beaucoup plus du risque, un portefeuille à yield, je regardais notre portefeuille à yield sur la dette corporate euro à yield, il a un peu plus de 6%. On est en train de monter un portefeuille millésimé avec que des échéances à 2028, le portefeuille modèle, il a plus de 7%.
D'accord.
La question, c'est ce qu'on vient tout de suite sur du yield par rapport à une possibilité de dégradation encore sur les spreads, ou est-ce qu'on considère que c'est déjà suffisamment dégradé ? Il y a déjà beaucoup de risques dans les marchés, mais on l'a dit précédemment, il y a encore de la volatilité, parce que le scénario d'atterrissage, il n'est pas encore complètement défini.
Bon, le high yield, on le répète, c'est la dette à haut rendement. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui nous regardent et qui disent, est-ce que quand même, là, ils nous parlent de risque, est-ce que le plus simple, le plus sage, ce ne serait pas de revenir très liquide, le temps d'y voir plus clair ? Allez, on fait une pause, on regarde comment tout ça évolue et puis on se réinvestit dans quelques mois, pourquoi pas ?
Alors, définitivement, ça, c'était le positionnement adopté en début d'année. Mais là encore, c'est super facile d'indiquer cela. Pourquoi ? Parce que les taux ont fortement monté. Si on prend des performances aujourd'hui, je prenais le 10 ans allemand tout à l'heure, à peu près moins 15% à mi-juin depuis le début de l'année. Et si je prends le CAC 40, moins 14%. Mm. Donc si vous essayez de faire de la diversification avec cela, c'était un peu compliqué parce que tout est tombé. On en parlait tout à l'heure de la diversification. Ça a beaucoup heurté les marchés parce que ce qui est censé nous protéger, les obligations...
Ça marchait pas, là.
Voilà. Ouais. Et les obligations de meilleure qualité, non plus. Pourquoi ? Parce que généralement, elles sont plus longues en duration. Par rapport à ce que je donnais tout à l'heure, la performance du 2 ans allemand, du 10 ans allemand, du 30 ans allemand, on voit que plus on a une maturité longue plus on souffrait. Et quand on va sur de l'investment grade, généralement, par construction, c'est un peu plus long.
Il faut vraiment réapprendre sa grammaire en ce moment. Hein,
oui. Ludovic, hein. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rester en cash aujourd'hui, ça commence, c'est trop tard.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que les niveaux de yield sont plus intéressants. Et sur le stress qu'on commence à avoir sur les spreads des meilleures sociétés investment grade ou de celles moins bien notées, sociétés à haut rendement, le high yield, on commence déjà à avoir pas mal de spread, ce qui fait que le rendement qu'on en attend est déjà assez bonusé.
Intéressant,
il est intéressant. Par contre, ce qu'on peut encore avoir face à nous, c'est la hausse de taux. Les programmes des banquiers centraux, pour le moment, sont encore au durcissement. On le voit, les attentes du marché attendent encore plus de la BCE. Sur la Fed, je n'ai pas donné les exemples, mais c'est la même chose. Hein. On attend encore 8 hausses à venir d'ici la fin d'année, avec par moment des actions à 3 d'un coup, on est d'accord, le 75 qui est attendu pour le mois prochain et qu'on a eu déjà la semaine dernière. Donc, par rapport à cette hausse de taux, je pense qu'il faut rester en duration faible, plutôt des investissements courts. Ou alors, l'une des solutions, c'est que si on n'a pas forcément le temps de dire « il faut que je sois en duration courte, il faut que je passe en duration longue parce que
ça,
là,
c'est
plus intéressant », on peut le déléguer.
Ouais.
Il y a des gestions flexibles qui ne vont pas vous rendre insensible à la hausse des taux, mais qui vont prémunir une grande partie. Nous, on a un fonds qui est EDR bon d'allocation. Depuis le début de l'année, sur une parité à la mi-juin, il est à moins 7,75. Donc, c'est une performance négative. Mais son indicateur de référence, il est à moins 15.
D'accord.
Donc, on a fait mieux dans la baisse.
Oui.
Ce qui est intéressant, quand un fonds fait mieux dans la baisse, quand vous essayez de sélectionner un fonds qui est flexible, c'est qu'il a de l'avance. Et donc, il gère avec un certain confort. Donc, le moment où il faudra remettre du risque, parce que ça fait partie de son mandat, se dérisquer et remettre du risque, ce sera d'autant plus facile pour lui de venir se re-risquer qu'il est dans une situation confortable avec de l'avance. Donc, aujourd'hui, en termes d'investissement, des durations courtes, on peut commencer à regarder, remettre du risque. Je serais plutôt sur des approches un peu composées entre l'investment grade ou du yield ou des fonds millésimés. On sait qu'il a une échéance, donc ça va être porté. Et petit à petit, on va venir cristalliser le niveau de rendement. En laissant de côté les défauts, mais ça, c'est le boulot de l'équipe de gestion de sélectionner les boîtes qui ne feront pas défaut. Ou alors, si on veut déléguer, on délègue, on va sur de la gestion flexible. Mais il y a encore de la place pour avoir des taux aujourd'hui dans un portefeuille.
On a eu le coup d'œil dans le rétroviseur. On va essayer de voir un petit peu ce qui nous attend sur la route, là, les obstacles. Qu'est-ce qu'on regarde dans les mois à venir ? On l'a vu déjà, cette remontée des taux. Comment il va falloir naviguer dans cet environnement ? Je pense aussi, l'été s'approche. C'est le moment où on va partir en vacances, mais on redoute toujours parfois un petit peu un été meurtrier sur les marchés. Qu'est-ce que vous voyez, ou en tout cas, quels scénarios sont possibles ?
Alors, c'est bien justement de raisonner en scénario.
Parce qu'on n'a pas de boule de cristal encore, on ne l'a pas trouvé.
Exactement.
On va dire tout de suite.
Il y a trois scénarios qui émergent. Ces trois scénarios qui sont un peu risqués. Donc, on est dans un environnement qui reste risqué.
On l'avertit tout de suite.
C'est ça. Le premier, c'est le scénario de stagflation. C'est-à-dire qu'une croissance économique qui reste stable, mais l'inflation s'installe, est plus durable. La conséquence de ce scénario, c'est que les taux vont encore un peu monter. Parce que les banquiers centraux seront amené à encore durcir le ton sur les hausses des taux. Mais si la croissance reste stable, derrière, il n'y a pas de dérapage, et donc il faut plutôt peu de duration en portefeuille, on peut commencer à remettre du risque, on le disait, les spreads de crédit ou sur les actions, mais Maggie en parlera plus longuement par la suite. Ça, c'est un scénario qui est probable. Un deuxième scénario, qui est également assez probable, c'est une récession technique. Alors, une récession technique, qu'est-ce que c'est ?
Deux mois de croissance négative.
Deux mois, oui.
Deux trimestres, pardon.
Trimestres,
deux
trimestres
de croissance négative.
Deux trimestres de trimestres. En revanche, sans vrai impact sur la sphère économique. C'est qu'on a ces deux trimestres de croissance négative, mais derrière, on a un peu un rebond technique par rapport aux effets de base. Et finalement.
Avertissement sans frais.
Oui, c'est un peu ça, parce que l'économie reste solide, ça ne se dégrade pas, tout le monde ne prend pas peur, et donc on a toujours de l'investissement, le taux de chômage ne dérape pas, et puis là, les consommateurs ne mettent pas tout en épargne et continuent de... C'est juste un peu plus de prudence. Ça, c'est un scénario qui peut se matérialiser et qui est assez probable. Dans ce cas-là, ce qu'on peut attendre, c'est un peu moins de hausse de taux, rester plutôt sur le programme qu'on a. Et dans ce scénario, l'inflation pourrait faire son pic et derrière se stabiliser. Donc c'est un scénario assez positif qui permet de commencer à remettre du risque ou d'avoir l'opportunité de le faire ainsi. Le troisième, moins probable, mais on ne peut pas l'exclure, parce que quand on fait des scénarios...
Non, j'ai pas envie d'entendre celui-là, je ne sais pas pourquoi.
Récession un peu plus durable. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les deux trimestres techniques, mais derrière... Ça crispe l'économie. Ouais. Les banquiers centraux mettent un peu de temps à réagir, continuent de monter. Ouais. Voilà. Et là, du coup, on prend peur.
On prend peur. Bon, quand on m'a dit que c'était compliqué.
C'est pas celui que je privilégierais.
Bon, voilà. Ah, c'est pas celui que Ludovic privilégie. Je me tourne maintenant vers vous, Maggie. Si on regarde maintenant les actions, c'est un peu pareil. Hein, un paysage très chamboulé avec une grosse correction des valeurs de croissance, notamment des technos qui ont si bien réussi sur les années précédentes. Comment, là aussi, on réagit dans ce contexte ?
Ben, cette correction, en fait, elle correspond à ce changement de paradigme sur le marché des taux, hein, puisque on quitte, on va dire, un monde où la croissance a été financée à tout prix. Et on a, en fait, maintenant, dans un monde où les niveaux de valorisation vont être de nouveau importants, les notions, effectivement, de profitabilité, de génération de flux de trésorerie deviennent effectivement des sujets que les investisseurs regardent de nouveau. Et nous, notre conviction, eh ben, c'est qu'il va effectivement continuer, il va falloir continuer en fait, de privilégier ces sociétés qui sont des sociétés rentables, ces sociétés qui ont aussi en fait, une bonne visibilité de par leur exposition à de la croissance structurelle et qui sont aussi correctement valorisées. Donc pour nous, la règle aujourd'hui, c'est de privilégier la diversification, parce que qui dit diversification dit meilleure gestion du risque. Hein. Et deuxième élément, c'est de regarder effectivement la valorisation, qui est un peu cette corde de rappel qui a été, je veux dire, impulsée par cette remontée des taux.
Un peu comme avec Ludovic, on a l'impression que là aussi, c'est un peu un retour aux fondamentaux, hein, finalement, des choses qu'on avait un peu perdu de vue sur les dernières années. Y a aussi cette question de l'investissement thématique qu'on a souvent présenté comme une façon de traverser les crises en misant sur les tendances de long terme. On en parle souvent sur les plateaux de Boursorama, vieillissement de la population, la transition énergétique, voilà, des cycles d'investissement longs qui vont profondément modifier l'économie. Est-ce que c'est toujours aussi pertinent aujourd'hui ?
Oui, bien évidemment, la gestion thématique, c'est une gestion de long terme. Hein. On va essayer de capter ces méga-tendances qui sont là pour durer, pas un an, mais plusieurs années, voire des décennies. Mmh. Mais là encore, la règle, c'est de construire des portefeuilles qui restent très bien diversifiés selon les typologies de sociétés. Donc, privilégier des sociétés qui sont établies, peut-être plus avancées dans leur cycle de vie. Des sociétés, effectivement, peut-être plus innovantes. Et là, plus effectivement... en démarrage, on va dire, de ce cycle d'expansion. Donc, la diversification au sein, effectivement, de la thématique nous paraît vraiment essentielle pour traverser la volatilité. Deuxième élément, c'est la qualité, on va dire, de la sélection, de ce qu'on appelle le stock picking, pour nous, vraiment redevient essentiel. Et on est convaincu qu'on peut continuer à créer de la valeur dans un environnement volatile, en privilégiant les sociétés qui ont des modèles de croissance durables, qui sont exposées à de la thématique structurelle et qui restent correctement valorisées.
Bon, c'est le grand retour des gérants actifs. Est-ce qu'il y a des produits, justement, chez Edmond Rothschild Asset Management qui permettent de s'exposer à ces tendances ?
Oui, tout à fait. On a une gamme de gestion thématique sur à la fois donc, le big data, hein, donc cette quatrième révolution industrielle qui permet de s'exposer donc, à la pénétration des métadonnées dans l'intégralité de l'économie. Et là encore, vous voyez, on parle de l'intégralité de l'économie, on ne parle pas uniquement du secteur tech.
Ah oui. Voilà. De toute façon, maintenant, la donnée est partout.
Voilà. Ouais. Et l'idée, effectivement, c'est de capter cette pénétration voilà, des métadonnées de manière très transverse au sein effectivement de plusieurs secteurs, pas uniquement la partie technologique. L'autre élément qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'on a aussi des gestions historiques, comme la stratégie EDR Fund Healthcare, qui est une gestion sur le secteur de la santé. Et là aussi, on va chercher à s'exposer donc aux piliers du système de santé, donc les grandes sociétés de biopharma et des assureurs santé, et des sociétés effectivement plus innovantes qui vont participer à la transformation du secteur de la santé via de l'innovation dans le digital ou effectivement sur la partie thérapeutique via les biotech. Donc après, on a des thématiques qu'on estime être très diversifiantes, donc sur des thématiques de croissance durable, comme sur la transition climatique, comme le fonds EDR Green New Deal, sur aussi la thématique du capital humain, et donc ces sociétés qui ont la capacité de, via une très bonne gestion de leurs pratiques de ressources humaines, d'utiliser en fait cette très bonne gestion du capital humain comme un avantage concurrentiel. Et ces sociétés aussi qui sont très bien exposées à une méga tendance qui est l'éducation et la formation des salariés. Et autre thématique qui là aussi est une gestion historique chez Edmond Rothschild, c'est notre stratégie sur la value américaine qui fait un véritable retour en force et qu'on estime être très intéressant et très diversifiant dans l'environnement actuel.
Value américaine, des sociétés décotées pour faire simple, Maggie ?
Absolument, ouais. Voilà. Des sociétés qui ont été très longuement ignorées par le marché, des sociétés qui
pas
ont...
assez sexy.
Voilà, qui étaient effectivement un peu labellisées comme de l'économie effectivement traditionnelle mais qui en fait ont des bilans très solides, ont la capacité effectivement de traverser les cycles et sur lesquels on estime qu'il y a un rattrapage de valorisation qui peut être fait, surtout dans un environnement où en fait la croissance effectivement devient plus compliquée à justifier. Ouais. Donc revenir effectivement sur la value a un véritable sens aujourd'hui.
Bon, forcément, il faut à ce moment-là qu'on parle d'investissement socialement responsable, d'investissement durable. Je ne vais pas refaire la musique, respect des critères ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance, mais, ce qui monte depuis le début de l'année, c'est plutôt les sociétés pétrolières, les sociétés d'armement et finalement les sociétés bien notées ESG qui trinquent relativement. Là aussi, on est un petit peu déstabilisé par cet environnement qu'on traverse.
Là aussi, sur l'ESG, c'est une gestion de long terme. Donc, c'est vrai que, on va dire, cette correction qu'on a, et là encore, c'est très relatif, ça dépend, on va dire, des fonds et des gestions. On estime effectivement que c'est des thématiques à la fois sur l'ESG qui vont rester, parce que, enfin, pour trois raisons. Première raison, vous avez une véritable, on va dire, exigence sur le plan réglementaire. Donc, effectivement, nécessité d'aligner les portefeuilles sur
des scénarios de, notamment trajectoire de réchauffement climatique.
Exactement, des scénarios de degrés. Ouais. Deuxième élément, vous avez la demande des clients qui continue en fait à rester très très robuste. L'idée, c'est d'investir sur des sociétés qui vont participer à cette transition vers un monde plus durable. Et là, en fait, on continue à avoir une très très forte demande de la part de nos clients. Et troisième élément, ça vient un peu de notre ADN en tant qu'investisseur de long terme qui cherche effectivement à privilégier les sociétés de croissance durable à impact sociétal positif, on est convaincu effectivement que ces sociétés créent de la valeur. Donc le repli effectivement des derniers mois pour nous est un repli passager et on continue effectivement à pousser ce type de thématique. Aujourd'hui 90% de nos portefeuilles en fait sont ce qu'on appelle article 8 et article 9, c'est-à-dire donc des fonds effectivement qui participent donc à cette thématique de croissance durable.
Question ouverte pour finir à tous les deux. S'il fallait retenir deux, trois grandes idées forces, repartir avec cette conférence, avec les idées bien en place, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On commence par Ludovic.
La première, c'est peut-être celle qui a été mise à mal depuis le début de l'année, et c'est un peu le thème de cet échange, la diversification. Ouais. Parce que la diversification, elle a été mise à mal. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la performance du CAC 40, un indice action, la performance des taux, un indice sur les taux. Quand on fait la diversification, le premier élément, c'est des actions et des taux, et on choisit son profil. Ouais. Plus on a d'actions, plus on est agressif, moins on en a, on est défensif. Étant donné que les performances sont équivalentes à cause de la hausse des taux, difficile.
On est au moment hyper sur latin. Hein.
Voilà, exact. Donc on se dit, bon, ben, ce modèle ne marche plus. Oui. Après, les taux montent par choc. On l'a vu, on ne l'anticipait pas aussi fort, mais il s'est matérialisé. Donc il y a déjà beaucoup de hausse de taux qui est fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, les produits obligataires retrouvent des valeurs intéressantes. C'est-à-dire, plus les taux seront hauts, plus avant une récession ou pendant une récession, les banquiers centraux pourront les baisser. Donc, ils apporteront de la valeur. Plus le spread, donc l'écart de rémunération qu'on a sur des sociétés ou des émetteurs un peu moins bien notés, donc plus ces spreads sont élevés, plus on est prémuni contre une partie du risque. On peut absorber plus de dégradation ou plus de hausse de taux. Donc, on retrouve les caractéristiques intéressantes sur les taux. Je ne dis pas que ça y est, c'est terminé. La souffrance qu'on a connue sur la partie des taux, mais elle va être moindre. Donc, à partir du moment où on retrouve ces caractéristiques-là, faire des actions et des obligations va redevenir intéressant. On va pouvoir recommencer à construire des portefeuilles plus robustes. Donc, l'un des éléments, c'est de ne pas oublier que la diversification est à l'essence même des investissements. Ça marche. Oui. On a connu un choc. Vous l'avez mis en préambule. Hein, ce qu'on vient de voir, on ne l'a pas vu depuis les années 80-70, une si forte hausse de taux. On est un élément qui est différent, c'est que cette inflation, elle doit piquer et derrière se stabiliser et ralentir. Donc, on va revenir sur un environnement plus serein. Donc, pour moi, c'est la diversification est encore là.
Maggie, votre mot de la fin à vous ?
Alors, moi, le mot de la fin, c'est sélectivité. Hein, ouais. Donc, je pense que là encore, tout ce qui est lié à la gestion active dans des marchés qui vont devenir moins directionnels, plus volatiles, c'est un élément, en fait, assez crucial. Et deuxième élément, privilégier, on va dire, les recettes classiques, on va dire, de la gestion fondamentale, c'est-à-dire les sociétés qui sont bien gérées, qui sont correctement valorisées et sur lesquelles, en fait, on a des perspectives de croissance solide à moyen terme.
Bon, et ça, c'est une transition toute trouvée avec les questions que vous avez posées, notamment au moment de l'inscription, puisqu'on a retenu certaines. Sophie qui nous dit « J'ai du mal à voir comment les sociétés ne pourraient pas être affectées à terme par les baisses des prévisions de croissance. Ne faut-il mieux pas attendre ?» C'est un peu la question qu'on se posait, que les marchés intègrent ces chutes de profits avant d'investir. Alors,
moi, j'ai presque envie de dire que les marchés ont déjà, on va dire, anticipé ce scénario, on va dire, de baisse de profit. Donc, pas de manière, on va dire, généralisée, mais vous avez des sociétés, notamment dans le secteur technologique, qui auparavant étaient considérées comme très défensives, qui ont donc très fortement baissé, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'elles avaient cette certaine exposition, effectivement, au cycle. Donc, vous avez des titres comme Amazon qui ont perdu plus de 40%, Apple 35%. Et j'ai envie de dire que aujourd'hui, il va falloir être assez vigilant, regarder effectivement des points d'entrée. Vous avez une grosse partie, on va dire, de cette correction qui est quand même déjà très intégrée dans le marché. Hein. Vous regardez aujourd'hui les actions européennes, elles traitent sur des PE, enfin donc des multiples de valorisation qui sont assez proches de ce qu'on avait eu en 2011, hein, lors de la dernière crise des dettes souveraines. Donc, pour nous, je pense qu'il faut rester donc assez agile, pas hésiter effectivement à revenir, parce que c'est toujours très très difficile d'anticiper en fait le
quand
point
ça
bas.
Va repartir.
Voilà, exactement.
On aimerait bien toujours rentrer au plus bas, mais c'est pas si simple que ça. Justement, Calette se pose la question et ça fait écho à tout ce que vous venez de nous dire, Maggie. La chute de 30% du Nasdaq est-elle une opportunité de se replacer sur les valeurs américaines ? J'imagine qu'il parle plus spécifiquement justement des valeurs technologiques. Pour mettre un peu dans son portefeuille. Et oui, on peut se dire, c'est les soldes, allons-y finalement.
Alors là encore, la sélectivité reste de mise.
Hein. Oui, on n'achète pas tout n'importe quoi.
Voilà, donc regardez le modèle économique, regardez les niveaux de valorisation, regardez en fait ce qui peut être soutenable dans la durée. Si ces sociétés ne sont pas, on va dire, dépendantes du marché pour se financer, c'est quand même effectivement...
C'est mieux.
Oui. Voilà. Donc là encore, il faut effectivement éviter d'avoir une approche globale et rester beaucoup plus spécifique dans cette approche, d'où effectivement la nécessité d'investir via des gestions actives, agiles et responsables.
Il va falloir bosser ces dossiers. Question de Guy posée là aussi au moment de l'inscription, peut-être plus pour Ludovic, si elle se poursuit, quel effet la hausse des taux va avoir sur la dette souveraine qui se retrouve dans de nombreux produits d'épargne ? Bonne question, ça. Hein.
Oui, on l'a vu, le problème des taux, c'est que quand ils montent, ils baissent en prix. Mm-hmm. Et donc, au bout d'un moment, est-ce que c'est soutenable, ces performances si négatives ? Il y a de nombreux mécanismes pour éviter qu'il y ait des problématiques sur les assureurs. On va prendre un exemple qui n'est pas lié sur un assureur, mais qui est lié à cette hausse des taux. Quand la BCE indique qu'elle va monter ses taux, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout le monde regarde l'Italie en disant « Oh là là, eux, ils sont très endettés.
Oui. »
Ils ont déjà un spread et le spread s'écarte.
Ouais.
Et il monte à 240. C'est-à-dire que le 10 ans...
On rappelle les moments de la crise de la zone euro.
Exactement.
Ça. Ouais.
Donc, on a appris de cette crise. Le 10 ans italien, il est monté à 4% mercredi dernier. Mercredi, une semaine après sa réunion, la BCE intervient et du coup vient expliquer que, attention, on ne veut pas de dislocation.
On ne va pas laisser les spreads grandir.
Donc, ouais. On utilisera un mécanisme, clair. On en trouvera un, on le mettra en place pour nous permettre de faire la hausse des taux. Donc, on est toujours sur ce mécanisme de hausse des taux. Il va continuer. Une grande partie est pressée. Je pense qu'il faut continuer de faire attention, mais je ne vois pas de risque systémique sur les problèmes d'assureurs.
Je pense que c'était la question.
Et là, il n'y en a pas. On a les mécanismes. On a beaucoup appris au cours des dix dernières années. Et aujourd'hui, est prêt, le cas échéant, pour déployer des mécanismes spécifiques pour les assureurs. Sur les dettes périphériques, on a les mécanismes. Donc, il n'y a pas de risque de contagion et c'est en tête de tout le monde. Par contre, face à cette hausse de taux, Guy, en tant qu'investisseur, je ne sais pas s'il faut être sur des produits assurantiels aujourd'hui ou plutôt aller capter ces hausses de taux. Et si ces niveaux de taux plus intéressants, et si vous avez des problèmes à identifier le timing, confiez-le sur une gestion flexible.
Bon, bah moi, j'ai envie de terminer sur ce propos plutôt rassurant de Ludovic. Voilà, j'espère qu'on vous a donné des informations concrètes sur la façon de bien diversifier votre portefeuille. Ludovic Dufour, Maggie McDonald, merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau avec nous.
Merci Laurent.
Voilà, cette webconférence est désormais terminée, mais restez avec nous. Le programme se poursuit sur Bourse Live. C'est tout de suite.